entraîner une régression, puisque en réduisant la quantité de travail, on a créé du chômage, et donc c'est l'aliénation et les misères des temps actuels.
Oui, je crois que vous avez raison. Dans cet extrait-là, qui est tout à fait intéressant, de 79, on reconnaît bien Gorce, le théoricien de l'aliénation, dans une filiation tout à fait marxiste et qu'il assume parfaitement et qui est, de ce point de vue-là, tout à fait intéressant. Marx était de tous les philosophes hégéliens celui qui disait que la philosophie, ça servait d'abord à réaliser le socialisme. Et d'une certaine manière, on retrouve bien Gorce s'inscrire dans cette logique-là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet extrait où il parle du communisme comme utopie, on voit bien à quel point André Gorce, si vous voulez parler de l'utopie, c'est toujours un petit peu difficile parce que l'utopie est à la fois ce qui fait changer la réalité et ce qui est incapable de la changer. Donc c'est toujours une espèce de ligne de crête. Il y a une mauvaise utopie, une bonne utopie. La mauvaise utopie, c'est celle qui vise à la perfection, une société sans drame, totalement harmonieuse. Et donc là, c'est le meilleur des mondes, si on peut dire. Et puis vous avez la bonne utopie, si je puis dire, et c'est celle qui transparaît, je trouve, dans les propos d'André Gorce à l'instant, c'est de nous dire ce qui n'est pas possible dans l'immédiat, mais qui pourrait devenir possible. Et là, on est plus dans la logique, non pas du meilleur des mondes, mais d'un monde meilleur. Et il est plutôt dans cette logique-là de l'utopie quand il parle effectivement de la possibilité que nous offre aujourd'hui la technique pour nous libérer du travail, parce que Gorce considérait que le temps libéré est une richesse, qui a une valeur existentielle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on est incapable de rentrer dans une réflexion de cet ordre-là.
André Gorce, 1979.
On a juste toujours imaginé la révolution comme un bouleversement instantané, où une société est détruite et une autre mise à sa place. Nous savons que c'est jamais comme ça que ça se passe. S'il y a un processus révolutionnaire brusque, la société mise en place portera en elle beaucoup des perversions de celle qu'elle a remplacée. Si la destruction des pouvoirs de domination ne se font pas dans la société qui est destinée à mourir, celle qui la remplacera, après destruction violente de cette société-ci, ne voudra pas mieux. On a dit dans le passé que la classe ouvrière, et Marx le croyait, s'approprierait le pouvoir bien avant que naisse le pouvoir d'État, et que le pouvoir d'État de la bourgeoisie serait détruit dans les faits avant de l'être politiquement. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'ai plus employé le terme de classe ouvrière, c'est que celle-ci n'a pas la même constitution qu'elle avait à l'époque de l'industrie taylorienne. Nous ne savons plus où commence et où s'arrête la couche des producteurs. Mais nous savons où commence et où s'arrête l'effet de domination. Nous savons quelle est la population qui est assujettie à une domination par le pouvoir central et le pouvoir technocratique. Mais nous ne savons plus au juste quelle est la position des techniciens, des informaticiens, des salariés, des PTT, des banques, etc., etc., dans le processus de production. C'est pourquoi Touraine, par exemple, ne parle plus que de population. Il désigne par population ce que d'autres appellent les masses, ou qu'en Italie on appelle le prolétariat, au sens le plus extensif. C'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie de l'appareil de domination, qu'il soit étatique ou institutionnel. Et nous voyons bien aujourd'hui que la radicalisation la plus manifeste et la plus agissante émane souvent, non plus d'une avant-garde de la classe ouvrière, mais de ceux qu'on veut nous présenter comme des classes moyennes et qui sont en réalité des travailleurs prolétarisés, dont l'appartenance de classe n'est pas claire. Et moi, je trouve ce fait positif que l'appartenance de classe ne soit pas claire, parce que je ne vois pas comment une société sans classe naîtrait s'il n'y a pas dissolution des classes avant même sa naissance.
Voilà André Gorz en 1960.